VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal RDC. Le gouvernement congolais a accusé aujourd'hui le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, d'encourager les extrémistes. Suite à ses déclarations demandant au président congolais Joseph Kabila de respecter la constitution de la République démocratique du Congo et de ne pas se représenter à la présidentielle. Le mandat de M. Kabila au pouvoir depuis 2001 arrive à son terme le 20 décembre. La constitution lui interdit de se représenter, mais le chef de l'État ne donne aucun signe de vouloir quitter son poste, alors que le scrutin présidentiel apparaît désormais impossible à organiser dans les délais requis. En Afrique du Sud, la police a tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser des étudiants à Johannesburg, réclamant l'éducation gratuite pour tous. Le point avec Nathalie Barge.
Les échauffourées ont éclaté sur le campus de l'université de Wits, où les cours devaient reprendre après 2 semaines d'interruption. Plusieurs policiers et étudiants ont été blessés. Le 19 septembre, le gouvernement a annoncé une augmentation des frais universitaires limitée à 8%, soit une hausse supérieure à l'inflation annuelle de 6%. La décision a déclenché des manifestations un an après un mouvement similaire qui s'était soldé par un gel des frais universitaires pour 2016. Selon les étudiants, l'éducation gratuite pour tous est conforme à la Charte sud-africaine des libertés. Mais l'ANC affirme que le document prévoit la gratuité seulement pour les pauvres. Le gouvernement s'est engagé à prendre en charge pour 2017 l'augmentation des frais universitaires pour les étudiants issus de foyers gagnant moins de 600 000 rand par an.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, nouvelle attaque contre un convoi de l'armée malienne ce matin sur l'axe Tombouctou-Goundam dans le nord. Bilan, un soldat tué et 2 blessés selon les sources militaires. Plus de détails avec notre correspondant à Tombouctou, Abdoulaye Traoré.
L'axe Tombouctou-Goundam, après quelques mois d'accalmie, renoue avec les attaques contre l'armée malienne, les FAMA. Un convoi militaire est victime ce matin d'une embuscade à une trentaine de kilomètres de Tombouctou sur la route de Goundam. Des sources militaires, les affrontements ont fait 1 mort et 2 blessés côté armée malienne. Aucun bilan n'a été fourni côté assaillant. Cette attaque est attribuée au groupe terroriste considéré comme les ennemis de la paix au Mali. Selon la même source, les forces armées et de sécurité ont engagé une poursuite pour retrouver les auteurs. Abdoulaye Traoré depuis Tombouctou pour VOA Afrique.
Hier lundi, 2 casques bleus de l'ONU avaient été tués, plusieurs autres blessés grièvement dans une attaque contre leur camp à Aguelog, dans le nord-est du Mali, près de la frontière algérienne. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné hier soir cette attaque, faisant état dans un premier temps d'un mort, un casque bleu tchadien. Mais un deuxième casque bleu a succombé dans la soirée à ses blessures, précise la MINUSMA dans un nouveau communiqué aujourd'hui. Dans son rapport trimestriel sur le Mali au Conseil de sécurité, également rendu public ce mardi, Ban Ki-moon souligne que les attaques contre les forces françaises et maliennes ainsi que la MINUSMA ont augmenté et deviennent de plus en plus sophistiquées et complexes. Côte d'Ivoire, le projet de budget 2017 sera marqué par une hausse des dépenses liées à la sécurité suite à l'attaque de Grand Bassam en mars qui a fait 19 morts. C'est ce qu'a déclaré le ministre ivoirien du budget, Abdourahmane Cissé. Près de 100 milliards de francs CFA, soit environ 152 millions et demi d'euros, seront destinés au renforcement de la sécurité, d'où une hausse du déficit budgétaire qui devrait grimper à 4%. Au Togo, 40% de la population de 15 ans et plus n'ont pas accès aux services financiers. C'est ce que révèle une enquête sur l'inclusion financière dont les résultats ont été publiés cette semaine à Lomé. Cette enquête dénommée FinScope Togo 2016 a permis d'avoir des statistiques sur l'accès aux services financiers dans le pays. On écoute Akoli Gentry, directeur technique de l'enquête FinScope.
18% des Togolais utilisent les services financiers. Mais quand on étend aux microfinances, on se retrouve à 45% et quand on étend à toutes les institutions, on se trouve à 60%. Donc ce qui veut dire que 60% des Togolais adultes, à des 15 ans et plus, utilisent les services financiers. Par rapport au crédit, seuls 27% de cette population a déclaré avoir eu du crédit. On se dit que ce taux est très faible. La raison principale évoquée, c'est que les gens n'aiment pas s'endetter.
Akoli Gentry, directeur technique de l'enquête FinScope au Togo.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le nombre de travailleurs qualifiés quittant l'Afrique subsaharienne augmente rapidement et constitue une véritable fuite des cerveaux qui pénalise le développement du continent africain. C'est ce qu'affirme le Fonds monétaire international, John Lindon.
Dans son rapport sur les prévisions économiques mondiales, le FMI estime que le chiffre des Africains qui vont vers les pays les plus riches pourrait bondir de 7 millions en 2013 à 34 millions en 2050. La fuite des cerveaux est particulièrement importante en Afrique subsaharienne, note l'institution qui précise que ce boom migratoire est largement nourri par la rapide croissance de la population active des pays africains. Le rapport note toutefois que des Africains qualifiés reviennent aussi s'installer dans leur pays natal après quelques années à l'étranger. Par ailleurs, l'aide financière de la diaspora à des proches restés au pays constitue une source de devises et de soutien à la consommation locale. Au Libéria, cela représente presque un quart du produit intérieur brut. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis accueillent près de la moitié de cette diaspora d'Afrique subsaharienne.
Conflit en Syrie, les États-Unis ont suspendu leur pourparlers avec la Russie sur un cessez-le-feu et sur le terrain, la situation empire. Des combats de rue opposent les rebelles aux forces du régime syrien qui poursuivent leur progression à Alep, la grande métropole du Nord. Salwa Jafari.
Rue après rue, les combattants pro-gouvernementaux avancent dans Alep, la partie de la grande ville du Nord, contrôlée par les rebelles et soumise à d'intenses bombardements du régime et de son allié russe. Leur objectif, occuper les quartiers proches de la ligne de démarcation avec Alep Ouest, contrôlée par le régime, afin de cantonner les forces rebelles au sud-est de la ville. Cette offensive a suscité l'indignation des pays occidentaux. Les États-Unis ont annoncé lundi soir la suspension des pourparlers avec la Russie sur un éventuel nouveau cessez-le-feu.
Nous allons continuer comme nous l'avons fait avant, nos efforts pour une cessation des hostilités dans tout le pays, ce qui veut dire que les avions doivent être immobilisés.
De son côté, la Russie espère que la sagesse politique prévaudra et que les États-Unis reviendront sur leurs décisions.
Présidentielle américaine 2016, après le premier débat entre la candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump, c'est au tour du candidat démocrate à la vice-présidente Tim Kaine et de son adversaire républicain Mike Pence de croiser le fer ce soir à Farmville en Virginie. Pour en parler, Timothée Donangmaï a joint le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville qui présente tout d'abord le démocrate Tim Kaine.
Oui, il est ex-gouverneur et aussi, bien sûr, le sénateur de l'État. Très populaire en Virginie, assez modéré en tant que démocrate. Il va aider, c'est sûr, Hillary Clinton dans l'État de Virginie, qui est un peu un swing state.
Un État clé.
Oui, c'est clé parce que c'est un des États importants. Et Hillary Clinton fait campagne moins en Virginie à cause de Kaine, qui fait la plus grande partie de la campagne en Virginie.
Et qu'en est-il du gouverneur Mike Pence d'Indiana, le républicain?
L'antithèse, aux antipodes de Trump en ce qui concerne leur personnalité. Il parle très lent, il n'a pas de charisme. Donc c'est un peu, comme je disais, l'antithèse de Trump. Très populaire au sein du parti républicain, surtout avec les conservateurs. Et assez un grand succès en tant que gouverneur en Indiana.
D'habitude, le rôle du colistier, du candidat à la vice-présidence, c'est de passer à l'attaque contre le camp adverse. Est-ce que ce sera le cas dans ce débat, Pence-Kaine?
Dans cette campagne, Trump, surtout, il aime attaquer Clinton. Il n'a pas besoin d'un vice-président qui le fait. Et c'est un peu la même chose avec Mme Clinton, qui, pendant le dernier débat, elle a attaqué surtout pendant ce débat-là. Donc, je crois que ce sera un peu différent. Ces gens-là n'ont pas la personnalité d'un chien qui attaque, ni l'un ni l'autre.
Oui, alors à quoi faut-il s'attendre dans ce débat?
Je ne sais pas exactement, mais probablement ça va être une discussion plus présidentielle, si vous voulez. Qui va parler des questions de politique, la politique étrangère. J'imagine que ce serait un peu le débat qui en s'attend pour un débat présidentiel. Bien sûr, il y aura des occasions de l'attaquer l'autre, mais c'est surtout un temps tout à fait différent.
Le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.